Les nuits de France Culture.
Le froid est une puissance, une force naturelle que l'humain se doit de comprendre et d'utiliser pour son bien. Comme l'explique l'écrivain scientifique Fernand Lott dans ce numéro de l'émission Heure de Culture Française, le froid ouvre à des possibilités immenses. Conservation des aliments, changement des modes de consommation, mais aussi de nouvelles techniques chirurgicales, notamment au niveau des greffes et des opérations cardiaques. La conquête du froid, c'est aussi cette quête quasi mystique des scientifiques pour le Graal de la physique, le zéro absolu, fixé à moins 273,15 degrés Celsius. C'est la température à laquelle les atomes se figent dans un état d'énergie minimale, en tout cas en théorie. Une courte introduction aux immenses enjeux entourant la conquête du froid par la science, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 18 novembre 1951 sur la chaîne nationale.
Nous allons visiter ensemble, si vous le voulez bien, un vaste empire, celui du froid. Nous aurons bien des découvertes à y faire et nous verrons qu'elles nous intéressent tous. La conquête scientifique et industrielle du froid compte en effet parmi les plus importantes des temps modernes. Elle a retenti dans tous les domaines, de la physique à la biologie, et les machines frigorifiques ne font-elles pas aujourd'hui partie de notre vie quotidienne ? Avant d'évoquer les étapes de cette conquête et de montrer à quel résultat elle a abouti, rappelons quelques notions élémentaires. Si vous demandez à l'homme de la rue « qu'est-ce que le froid ?», sans doute haussera-t-il les épaules en se moquant du questionneur. Et s'il consent à répondre, il vous dira « le froid, eh bien, c'est le contraire du chaud. Que voudriez-vous donc savoir de plus ?» Ses sensations lui suffisent et il se fie uniquement à elles. Mais les plus simples expériences nous révèlent que nos appréciations sont ici toutes subjectives. Une cave, par exemple, le souterrain du métro, dont la température est sensiblement constante, nous semble tiède en hiver, frais en été, et au sortir d'une eau chaude, une eau tiède nous semblera froide. Inversement, au sortir d'une eau froide, la même eau tiède nous semblera chaude. Cela signifie que nos sensations thermiques, à un moment donné, sont modifiées par nos sensations thermiques précédentes. Ces sensations dépendent d'ailleurs de notre état physiologique. On peut en effet éprouver une sensation de froid au cours d'un accès de fièvre alors que la température du corps s'élève au lieu de s'abaisser. Ces sensations dépendent encore de la nature de l'objet qu'on touche. Une fourchette nous semble plus froide que la nappe sur laquelle elle repose. Nappe et fourchette sont pourtant à la même température. Mais le métal est meilleur conducteur de la chaleur que le tissu. Nous lui cédons davantage de calories, d'où la trompeuse différence d'appréciation. Et l'erreur de notre sens thermique peut être totale, comme dans le cas où, ayant aspiré une pincée de menthol, nous éprouvons dans nos fosses nasales une impression toute subjective de refroidissement, ce qui est dû au fait que le menthol augmente la sensibilité de ceux d'entre les nerfs de la muqueuse nasale dont l'excitation déclenche la sensation de froid. La notion de froid étant ainsi tout à fait relative, on a convenu de considérer comme froid les corps dont la température est inférieure aux températures qui règnent habituellement dans nos climats tempérés. Pratiquement, la région du froid est constitué par l'ensemble des températures inférieures à celles de la glace fondante, c'est-à-dire comprises entre cette température, 0 degré centésimal, et le zéro absolu, moins 273 degrés centésimaux. Car il existe un froid absolu, tel qu'on ne puisse concevoir un corps à température plus basse. Dans ses exposés sur la thermodynamique, M. Gérard Caillé nous a récemment expliqué comment on était parvenu à la notion de zéro absolu. Rappelons que c'est la température à laquelle devrait être portée une enceinte pour qu'une machine thermique parfaite fonctionnant suivant un cycle de Carnot entre une source chaude quelconque et cette enceinte prise comme source froide transforme en travail la totalité de la chaleur empruntée à la source chaude et, par suite, est un rendement égal à l'unité. Or, une telle éventualité serait en contradiction avec le principe de Carnot et il en résulte que le zéro absolu doit être considéré comme une température limite dont on peut s'approcher de plus en plus mais qu'il est impossible d'atteindre exactement. Mais voilà qui paraîtra un peu obscur à ceux de nos auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec la thermodynamique. Plus simplement, en gros, nous pourrions dire que la chaleur correspondante à l'agitation des molécules, on atteint le zéro absolu au moment où cesse tout mouvement moléculaire. On aboutit à la même notion en s'adressant aux propriétés des gaz parfaits. Lorsqu'on refroidit un gaz en maintenant son volume invariable à partir de la température de la glace fondante, on constate que sa pression diminue de 1/273 de sa valeur pour chaque abaissement de température de 1 degré. À moins 273 degrés, la pression aura donc baissé des 263 à 263 de sa valeur, c'est-à-dire qu'elle sera devenue nulle. Comme on ne saurait concevoir qu'un gaz ait une pression négative, ce qui signifierait qu'il tire les parois de l'enceinte où il se trouve au lieu d'exercer sur elle une pression, on voit ici encore que la température de moins 273 degrés apparaît comme la plus basse dont on puisse concevoir l'existence. Pour exprimer en température absolue une température centésimale quelconque, il suffit d'ajouter 273 au nombre de degrés qui exprime cette température centésimale. Par exemple, une température de 20 degrés centésimaux deviendra 273 plus 20, soit 293 degrés absolus, qu'on écrit 293 degrés K, la lettre K ayant été choisie en l'honneur de Lord Kelvin, à qui l'on doit la définition précise des températures thermodynamiques ou absolues. Pour mesurer les basses températures, le thermomètre ordinaire à mercure cesse d'être utilisable. Le mercure se congelant vers moins 44 degrés centésimaux. On peut alors recourir à des thermomètres dans lesquels le liquide indicateur reste fluide jusqu'à des températures beaucoup plus basses. Par exemple, le thermomètre à toluène jusqu'à moins 90 degrés centésimaux, le thermomètre à alcool jusqu'à moins 120 degrés, les thermomètres à éther de pétrole ou à pentane, ces derniers pouvant servir jusqu'à la température de l'air liquide, soit environ moins 190 degrés centésimaux. Au-delà, pour la mesure des très basses températures, on se servira de thermomètres à résistance, basés sur ce fait que les métaux deviennent de plus en plus conducteurs de l'électricité au fur et à mesure que baisse la température. On emploie également beaucoup au voisinage immédiat du zéro absolu, les couples thermoélectriques. Ceux-ci utilisent le fait qu'il y a production de courant électrique dans un circuit formé de deux métaux différents, par exemple couple cuivre-palladium, palladium-platine, constantin-acier, lorsque l'un des contacts n'est pas à la même température que l'autre. Le courant envoyé dans un galvanomètre, fait dévier l'aiguille de celui-ci d'une quantité qui permet d'apprécier exactement la température. Ces couples thermoélectriques, il faut le souligner, sont d'une très très grande sensibilité. Thermomètres à résistance et couples thermoélectriques, sont étalonnées par comparaison avec un thermomètre à gaz, dans lequel on déduit la température de la variation qu'éprouve la pression d'un gaz maintenu à volume constant. Pour les très basses températures, on met en œuvre les gaz les plus difficilement liquéfiables, l'hydrogène et surtout l'hélium. Nous avons, il y a un instant, fait allusion à la diminution de la résistivité des métaux avec la baisse de température. Les propriétés spéciales de la matière aux basses températures feront l'objet de notre prochaine causerie.
C'était un numéro d'Heures de culture française consacré aux applications du froid de l'écrivain scientifique Fernand Lott, diffusé pour la première fois le 18 novembre 1951 sur la chaîne nationale.